Réponse à vos réactions.
À la mise en onde de Sylvain Baogueré, Tati Mampoukou est déjà en place, hein, de l'autre côté de la baie vitrée pour assurer la réalisation. Marcel Ngombombala est à la coordination au micro, Judy Daniel Kachama, sous la supervision des JR Lungembo.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Quel régime alimentaire pour les personnes souffrant des maladies du cœur? Eh bien, nous avons deux invités qui vont répondre à vos préoccupations. Alors, si vous souffrez de ces maladies ou vous voulez savoir comment les prévenir, appelez-nous directement. Commencez déjà à nous appeler au 081-890-6394. Professeur Jean-René Mbuyamba, il est docteur Jean-René Mbuyamba, professeur à la faculté de médecine et interniste et cardiologue, et notre invité. Il sera là tout à l'heure. Et nous avons également dans ce studio Mami Bayouma, nutritionniste au programme national des nutrition Pronanit. Mami Bayouma, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu aujourd'hui à Radio Capi pour nous parler du régime alimentaire qu'il faut préconiser pour les personnes qui souffrent de maladies de cœur. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut savoir quels sont ces aliments que les personnes qui souffrent de ces maladies peuvent consommer?
Bon, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs aliments que les personnes souffrant des maladies du cœur peuvent consommer. Mais tous les aliments, on ne les donne pas comme ça d'emblée. Il faut spécifier une maladie. Chaque type de problème de cœur, ça doit avoir une alimentation
appropriée.
Qui est appropriée, c'est ça. Bon, pour les cas de maladie du cœur, il y en a plusieurs.
Oui.
Bon, pour chaque type de maladie, il y a un régime spécifique et global. Donc, dans la globalité, on va parler avec la personne, connaître ses habitudes alimentaires, connaître comment il a l'habitude de manger, déceler les erreurs alimentaires.
Oui.
À ce moment-là, à partir de ça, parce que chaque personne a nous avons nos cultures, nos façons de manger par rapport à nos régions d'origine, quoi.
Oui, bien entendu.
Bon, ça peut aussi, il y a des aliments que nous mangeons qui sont bien aussi, ça contribue au traitement même du cœur, même d'autres organes. Mais aussi, il y a des aliments qui entravent aussi le bon fonctionnement du cœur.
Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps d'accorder la parole à Dr. René Mbuyamba, professeur à la faculté de médecine et interniste cardiologue. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous avons suivi qu'actuellement des études menées dans quelques structures médicales font état de 21% des cas de maladies cardiovasculaires, notamment dans la tranche d'âge des 50 ans et plus. Alors, qu'est-ce qui explique ces développements de ces maladies ces derniers temps?
Les maladies cardiovasculaires dans l'ensemble n'ont pas une cause univoque. Les maladies cardiovasculaires se développent à partir d'une certaine prédisposition génétique, héréditaire, culturelle, mais avec l'effet des facteurs de l'environnement qui permettent à cette prédisposition de s'exprimer. Et il faut dire que avec la globalisation, avec les modifications de mode de vie, eh bien, beaucoup de changements sont apparus et le profil des maladies change de plus en plus, quittant les maladies infectieuses qui étaient les plus abondantes chez nous, vers les maladies non transmissibles, y compris les maladies cardiovasculaires, qui de plus en plus, voient une incidence et une prévalence plus élevée. En fait, on peut accuser une prédisposition génétique d'une part, et surtout les facteurs de l'environnement, dont cette modification de mode de vie, il faut entendre alimentation, et autres habitudes telles que diminution de l'activité physique, consommation du tabac et de l'alcool.
Voilà. Donc, alors, quel type de maladie de cœur? Parce qu'on a appris qu'il y en a plusieurs types. Alors, si vous pouvez décrire chaque type de maladie cardiovasculaire.
Oh, disons que un ensemble de maladies cardiovasculaires, il y en a beaucoup. Il y a notamment des cardiopathies congénitales, celles que l'on a à la naissance. Il y a les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire qui relèvent, et c'est de celles-là souvent que nous parlons lorsque nous parlons de maladies cardiovasculaires, qui relèvent de mauvaise irrigation du cœur et des vaisseaux, qui sont liés à une mauvaise alimentation, à l'hypertension, au tabagisme. Il y a les maladies qui atteignent particulièrement le muscle cardiaque lui-même comme point de départ. Ce sont ce qu'on appelle cardiomyopathie. Il y a les maladies qui atteignent la couche interne du cœur. Ce sont les valvulopathies. S'il y a les maladies qui atteignent la couche externe du cœur, ce sont les atteintes du péricarde. Et il y a des maladies qui sont secondaires aux parasites, aux infections. On peut voir des myocardites qui viennent dans ce cadre-là. Alors, il y a des maladies qui sont caractérisées par la modification du rythme habituel du cœur.
Oui.
On les appelle les troubles de rythme ou les arythmies. Voilà, en gros, les différentes maladies du cœur. Il y a aussi des maladies qui atteignent essentiellement les vaisseaux et les cœurs,
oui.
Entre autres l'hypertension artérielle, qui est d'ailleurs le chef de file de toutes les maladies cardiovasculaires chez nous.
Voilà, docteur, il y a certaines personnes qui se plaignent, voilà, et un auditeur qui nous a dit par exemple qu'il reçoit souvent des palpitations au niveau du cœur. Est-ce qu'on peut dire d'emblée qu'il s'agit d'une maladie cardiovasculaire?
Les palpitations dans la région du cœur peuvent être liées à l'atteinte du cœur, mais peuvent être liées aussi à des organes qui sont voisins du cœur, et qui, dans les circonstances d'émotion ou d'irritation, peuvent irriter également les cœurs. Et les palpitations, lorsqu'elles viennent du cœur, peuvent signifier, par exemple, qu'il y a un trouble du rythme cardiaque, peuvent aussi indiquer qu'il y a un certain degré d'élévation de la pression artérielle.
Alors, docteur René Mbuyamba, on a suivi certains auditeurs nous dire que les reins, la maladie des reins est également liée, c'est également une forme de maladie cardiovasculaire. Est-ce que vous confirmez cela?
Je voudrais dire simplement que les atteintes du rein, les maladies du rein peuvent conduire à des conséquences au niveau du cœur. Et d'ailleurs, ceux qui souffrent des maladies du rein meurent souvent de complications qui arrivent au niveau du cœur du fait de ces perturbations rénales. Et d'ailleurs, les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension se répercutent aussi sur le rein et en perturbent le fonctionnement. Donc, aujourd'hui, on considère que les atteintes rénales participent à la morbidité et à la mortalité cardiovasculaire.
Voilà, docteur Jean-René Mbuyamba, restez toujours en ligne. Nous rappelons que vous êtes professeur à la faculté de médecine et interniste cardiologue. C'est une émission où les auditeurs appellent pour poser leurs problèmes, des questions, et nos invités vont répondre, apporter des réponses précises à toutes ces questions.
Okay.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Nous avons déjà en ligne Jean-Théophile qui nous appelle depuis l'Ikasi au Katanga. Jean-Théophile, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre préoccupation?
Bon, c'est que j'éprouve en tout cas souvent des palpitations comme cela au niveau du cœur.
Oui.
Alors, bon, comme j'étais allé trouver un médecin comme cela, un médecin chinois d'ailleurs, après m'avoir scanné comme cela, on avait découvert comme cela que j'avais une tumeur au niveau du cerveau. et que c'est ça qui m'avait inquiété. Les palpitations que je suis en train de ressentir, ça doit être causé aussi par cette tumeur-là, puisque il m'avait dit que un arrêt cardiaque est tout à fait possible. Alors, elle m'a conseillé de pouvoir consommer certains aliments comme ceux-là, de pouvoir changer même de régime alimentaire. Parce que moi, jusque-là, je suis... je n'ai pas en tout cas beaucoup d'attirance vers les aliments végétaux.
Oui.
C'est que je consomme souvent de la chair, du poisson, ainsi de suite.
Voilà.
Alors, je ne sais pas
oui.
si le problème du cœur... Il peut y avoir une réelle corrélation comme cela entre le problème du cœur et le problème alimentaire.
Voilà.
C'est lorsque le docteur vient de parler tout à l'heure que voilà, il y a aussi des problèmes. Bon, il peut y avoir des conséquences sur les voies rénales, ainsi de suite. Je ressens la même chose aussi.
Voilà, on va donner la parole au docteur qui va directement répondre. Docteur Jean-René, vous avez suivi sa préoccupation?
Oui, il n'est pas tout à fait étonnant que des problèmes au niveau du cérébral puissent avoir des répercussions sur les fonctions de l'organisme. Il faut savoir que le système nerveux est une commande de toutes les fonctions. Même si le cœur et le système cardiovasculaire est autonome, il y a quand même des connexions avec les systèmes sympathiques qui peut, d'une manière ou d'une autre, stimuler, influer sur le fonctionnement cardiaque et qui peut donc donner des modifications, des battements du cœur, des types de palpitations, des tachycardies. Vous n'avez qu'à savoir quand on a une émotion, quand on est stressé, eh bien, on voit ce genre de choses. Alors, lorsqu'on a un problème cardiaque, il est évident qu'il faut d'abord savoir de quel problème il s'agit pour pouvoir prescrire un comportement en ce qui concerne le mode de vie, l'alimentation, et un comportement en ce qui concerne les traitements pharmacologiques. Et les différentes affections du cœur qui surviennent chez les sujets ne sont pas les mêmes à tous les âges de la vie.
Oui, docteur. Donc, alors pour le cas précis des gens Théophile qui nous appellent depuis le Cassis, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui.
Il a des palpitations. La première chose, c'est de pouvoir aller faire quand même un examen pour qu'on puisse rattacher ces palpitations à un groupe des affections cardiaques particulières, de façon qu'on puisse lui prescrire et un traitement particulier. Et on ne sait pas si monsieur le correspondant de l'ICACI, s'il est avec un excès pondéral, on ne connaît pas si il a quelle habitude alimentaire.
Il vient de dire qu'il mange
beaucoup de viande du
pays. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
Oui, en général, chez les malades cardiovasculaires, nous conseillons de limiter la consommation des viandes grasses, de limiter aussi la consommation des produits laitiers, de diminuer la consommation des huiles de table, moins de 2 cuillères à soupe par jour d'huile de table, et même s'il faut quand même consommer ces huiles, préférer les huiles d'olive, de soya ou de maïs par rapport aux autres huiles. Et préférer surtout remplacer la viande par la consommation de poissons, les poissons qui, comme vous le savez, contiennent des graisses essentielles,
oui.
Des graisses non saturées, à oméga 3, oméga 6, qui sont des graisses particulièrement essentiel à la survie, et préférer donc les poissons, les consommer le plus possible par semaine, 5 fois par semaine, s'il le faut, et remplacer la viande par du poulet, par exemple, mais le poulet dépourvu de sa peau.
Voilà, le poulet pourvu de sa peau. Nous avons également Mamie Ibayuma, nutritionniste au Programme National de Nutrition. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur, Jean-Théophile, bon, qui appelait depuis le Cassis?
Bon, je lui dirais d'abord sur le plan global, comme je venais de dire, que la prise en charge s'appelle d'abord au global. Bon, pour celui, pour ce monsieur, il n'a pas encore fait des examens. Déjà, son régime, ça prouve, il n'a pas un bon régime.
Oui.
Il vient de dire ici qu'on lui a dit qu'il peut avoir des problèmes de cœur. D'abord, il mange pas le quoi, le légume. Les légumes, ça facilite aussi là quoi. Et ça aide aussi à ce que d'autres déchets puissent être éliminés. Ça ne s'élimine pas. En plus, les protéines. Donc plus on mange les protéines,
oui.
les protéines ne se stockent pas. Le fait que ça ne se stocke pas, ça s'élimine au niveau des reins. Quand tu as plus de protéines par rapport à l'eau normale, ça doit que affecter aussi le rein. Donc il faut aussi contrôler la quantité de ce que nous mangeons. Et d'autres maladies, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent les désavantages de consommer plus de viande que des légumes quoi.
Oui.
Parce que les légumes d'abord ça a beaucoup de rôles. C'est un nettoyeur même de notre corps, de sang, donc des légumes et des fruits. Et puis ça nettoie aussi les types digestifs et d'autres organes contre les tumeurs.
Alors quel type de légumes il doit beaucoup consommer?
Mais maintenant lui, comme il est là, comme le docteur vient de dire, j'ai dit un régime, bon, pour un régime, il doit maintenant consommer beaucoup de fruits.
Mmh. Quel type de fruits?
Bon, je ne peux pas spécifiquement dire,
ouais,
parce que on lui a demandé de faire les examens parce qu'il n'a pas encore fait les examens. Moi aussi, en tant que nutritionniste, j'ai besoin aussi de ces examens-là.
Jean-Théophile, on va lui poser la question. Jean-Théophile, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours en ligne.
Est-ce que vous avez déjà fait les examens?
Oui, j'ai déjà fait des examens.
Et les résultats?
Toujours.
Oui?
Toujours du côté de la biochimie, j'ai des résultats. C'est que, bon, la grande précision, c'est que j'ai une tumeur au cerveau.
Mm.
C'est ça la grande précision. Sinon, pour les autres, on a dit que ce sont des effets collatéraux, tout simplement, cette tumeur.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Théophile. Vous avez suivi ce qu'il vient de dire. Donc, il a déjà passé ses examens.
Oui, il a... C'est pas seulement... Bon, il a une tumeur. Mais pour la tumeur en question, il faut élaborer un régime quelconque. Mais on doit aussi faire d'autres examens comme les lipides totales du corps, de l'organisme, pour savoir si son taux de lipides est normal ou il n'y a pas assez, donc par rapport à son régime.
Mm-hmm.
Et puis ça peut aussi spécifier. Est-ce qu'il n'a pas un antécédent avec l'hypertension, il n'a pas aussi d'autres maladies, parce que quand on va soigner, on ne va pas seulement se limiter à la tumeur pour donner, dans tous ces facteurs-là, il y a aussi d'autres maladies liées.
Mm-hmm.
Donc ça doit aussi intervenir pour qu'on fasse un bon régime.
Mais
sinon,
on
fait seulement avec les tumeurs,
oui,
on ne réussira pas.
Donc, mais il doit retenir déjà qu'il faut consommer beaucoup de légumes,
oui,
et de fruits.
Oui, il doit d'abord consommer beaucoup de légumes et de fruits.
Oui.
Et les apports en glucides, comme le sucre,
mm-hmm,
ça doit être les sucres complexes comme le foufou, le patate, les taros, ces histoires, c'est ce qu'il doit manger. Éviter,
voilà,
les sucres simples. Mais je ne connais pas s'il est obèse, tout ça. Donc, on doit avoir tout ça, les IMC, oui, tout.
Voilà, nous avons en ligne Claude depuis Mongualou, dans la province orientale. Claude, bonjour.
Ok, bonjour.
Oui, Claude, on vous écoute.
Ok, en tout cas, avant, je vous remercie d'avoir m'accordé la parole.
Oui.
Moi, j'aimerais savoir si les maladies du cœur, là, qu'est-ce que c'est d'abord cette maladie? C'est ça, d'abord, la première préoccupation.
Oui.
Et la deuxième, c'est pour éviter cette maladie, qu'est-ce que l'on doit faire?
Voilà, merci beaucoup pour les deux questions. Docteur Jean-René, vous avez suivi. Il se pose la question de savoir qu'est-ce qui provoque ces maladies et comment les prévenir.
Merci d'avoir répété la question parce que il y a probablement des perturbations des réseaux, j'ai pas entendu.
Oui, oui.
Les maladies cardiovasculaires, je vous ai dit, il n'y a pas une cause unique comme la malaria qui est provoquée par un parasite protozoaire ou la dysenterie qui est provoquée par l'amibiase. Les maladies cardiovasculaires proviennent d'une conjonction de plusieurs facteurs que nous appelons d'ailleurs les facteurs de risque. ces facteurs de risque sont répartis dans la population. Certains des facteurs sont intrinsèques, sont dans le corps même de l'individu, par exemple son sexe, son âge, son hérédité. Eh bien, ces facteurs-là, on ne peut pas les changer. Mais il y a des facteurs qui sont des facteurs externes, qui sont des facteurs que l'on peut changer. Ces facteurs dépendent essentiellement de mode de vie, de l'alimentation, de l'activité physique. Et il faut que j'en profite pour dire à notre ami que ces facteurs de risque sont les mêmes pour plusieurs maladies. Les maladies cardiovasculaires dépendent de ces mêmes facteurs de risque.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure aussi.
Une consommation de tabac,
oui.
Un manque d'exercice physique. Le diabète en dépend. Des cancers en dépendent. Donc, une mauvaise alimentation en ce qui concerne une consommation excessive de sel, une consommation insuffisante de fruits et de légumes.
Oui.
J'en profite pour vous dire que nous préconisons notamment que l'on mange chaque jour environ 400 à 500 grammes de légumes, ce qui revient à peu près 5 portions. Une 5 portions, c'est à peu près 5 cuillères à soupe de légumes, multiplié donc par 5 par jour. Cela équivaut à n'importe quel fruit, un fruit, au moins un par jour, une orange, une banane, une mangue.
Voilà, docteur, donc, merci. Oui. Merci beaucoup, nous allons prendre...
À 3 cuillères à soupe,
oui,
de légumes cuits. Il faut savoir que les légumes sont protecteurs, aussi bien cuits que crus. Il faut manger peu de graisse, diminuer la consommation d'alcool, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà, grosso modo, les facteurs qui prédisposent au développement de ces maladies.
Voilà, oui.
Si vous voulez, j'allais encore ajouter quelque chose sur ce que le docteur vient de dire.
Oui.
Bon, sur les aliments, même si, il ne suffit pas seulement de citer les aliments comme ça, mais il suffit aussi de donner pour chaque choix la façon dont il faut préparer chaque aliment.
Voilà.
Pour les gens aussi qui sont, par exemple, les gens qui ont un problème de cœur, il faut éviter les fritures, le fait de manger les aliments frits avec l'huile.
Oui.
Il faut plus manger les bouillons, les aliments faits à bouillon à l'eau, bouillon à la vapeur, bouillon à ou alors les grillades.
Oui.
Et puis quand on mange, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des graisses qu'on ne peut pas contrôler. Mais quand même, si vous savez, par exemple, quand vous prenez la boîte de conserve, hein, c'est pas moi recommandé, mais quand vous prenez la boîte de conserve, toute la partie graisse là blanc, on ne peut pas utiliser ça. Quand on prépare, par exemple, le viande,
oui,
l'huile qui sort des viandes, tout ça, ça doit être jeté. Faire une autre sauce et mettre dans sauce, mais contrôler aussi la quantité d'huile que vous allez mettre. Maintenant, les huiles des graines, ce qui importe, ce qui est plus recommandé, les huiles d'olive et d'autres graines,
oui,
c'est ce qui est recommandé. Mais les huiles qui viennent des viandes, c'est à rejeter. Toutes les huiles qui viennent de viande, c'est prohibé.
C'est prohibé. Hein,
comme voilà, des beurres, tout, oui, ça, c'est pas répondu.
Merci, on va y revenir tout à l'heure. Nous prenons un auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi, Jean-Olivier, et puis il y a Claude de Kinshasa. Jean, on commence par Jean-Olivier, bonjour. Jean-Olivier, vous êtes en ligne, bonjour.
C'est plutôt Joseph Olivier.
Ah, c'est plutôt Joseph Olivier. Bonjour Joseph Olivier, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Quelle est votre préoccupation?
Ok, je voulais juste poser la question au docteur, parce que je connais quelqu'un qui a eu à souffrir des complications cardiaques.
Oui.
Mais quand on a essayé d'entrer en profondeur, parce que le docteur tout à l'heure a demandé à ce qu'on puisse approfondir les examens.
Oui.
Les examens scanners et échocardiaques n'ont pratiquement rien donné d'inquiétant. Alors, le médecin a poussé un peu plus loin, il a trouvé qu'au niveau de la glande thyroïde, il y avait une petite modification dans le fonctionnement de la glande. Alors, je voudrais savoir la relation qu'il y a, en fait, entre la glande thyroïde et les palpitations au niveau du cœur. Et on va beaucoup plus aussi incriminer le facteur stress, le facteur robot. Je ne sais pas quelle est la corrélation finale que le docteur peut donner pour pouvoir soulager ça. Parce que de manière organique, il n'y a pratiquement pas de quoi s'inquiéter. Mais sinon, les palpitations restent réelles et elles sont vécues. Et parfois, elles s'accompagnent de douleurs dans la poitrine.
Voilà. Docteur, vous avez suivi, docteur Jean-René?
Oui, c'est tout à fait une très belle question.
Oui.
Lorsque on examine un malade qui a des problèmes cardiaques, parfois les malades n'ont pas de symptômes, n'ont pas de plaintes particulières, n'ont pas de manifestations qui rattachent au cœur lui-même ce qu'ils ressentent. Mais ici, c'était même une chose heureuse que l'on ait poussé plus loin pour voir l'état du fonctionnement de la glande thyroïde. La thyroïde, comme vous pouvez le savoir, est une glande qui sécrète des hormones, deux types d'hormones essentiellement, T3, T4, la T4 étant une hormone importante dans le développement mental, le développement intellectuel, mais les deux participent aux activités des cellules.
Alors, pour son cas précis, pour le cas précis de son ami, docteur...
J'y reviens,
oui.
C'est pour ça que je parle maintenant.
Oui, allez-y.
Les deux participent aux activités métaboliques des cellules, c'est-à-dire les cellules catabolisent les nutriments qu'ils reçoivent pour avoir de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme.
Oui.
Et alors, ces hormones, lorsqu'elles sont sécrétées en grande quantité, eh bien, elles... exacerbe, elle stimule l'activité de métabolisme de toutes les cellules. Et pour que ces cellules fassent le métabolisme, les cellules ont besoin du sang, de l'oxygène, pour que leur métabolisme soit bien fait. Et c'est le cœur qui doit envoyer ce sang, envoyer cet oxygène. Et donc, la présence d'une telle maladie exige du cœur une activité particulièrement intense. Parfois, le cœur peut jeter l'éponge, c'est ce qu'on appelle la thyrotoxicose. Il peut montrer les signes de défaillance parce que la demande d'oxygène par les cellules, les tissus, est augmentée.
Alors, docteur, dans ce cas-là, oui.
Les palpitations, etc. Voilà une relation entre cet organe et le cœur.
Alors, docteur, dans ce cas, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que ce monsieur doit faire beaucoup plus? Des exercices physiques?
Généralement, dans ce cas-là,
oui.
Si le problème est sérieux, d'ailleurs, le médecin lui donnera les médicaments. D'abord, qui luttent contre cette exagération de l'activité de la thyroïde,
oui.
Des médicaments qui reposent le cœur, qu'on appelle bien les bêta-bloquants, on va les donner les uns et les autres pour, d'une part, diminuer l'activité de la glande, de l'autre part, reposer le cœur. Parfois, si l'activité est très grande, et s'il y a une déformation au niveau de la glande, des procédés chirurgicaux peuvent parfois être utilisés.
Voilà, continuez à nous appeler au 081-890-6394 pour poser vos questions, ou bien écrivez-nous à l'adresse action@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Un autre auditeur, Claude, qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Bonjour Claude. Claude, vous êtes
bonjour, monsieur le journaliste.
Oui Claude, quel est votre problème?
Bon, je voulais un peu poser une question au professeur suite à un constat que je fais.
Lequel?
Bon, depuis un certain temps,
oui.
Bon, j'ai constaté quelque chose. À chaque fois que je prends le beurre, la mayonnaise, et comme la nutritionniste venait tout à l'heure de le dire que le frites aussi,
oui.
Quelques 10 minutes après, je sens mon cœur bouger, indépendamment du battement normal du cœur.
Oui.
Bon, et puis j'ai l'impression que c'est comme si je m'essoufflais. Et à cela, je souligne aussi, aujourd'hui j'ai 24 ans, mais en 1996, un jour la nuit, j'étais là, je passais toute ma journée très bien, vers 19h, j'ai constaté que j'ai commencé à faiblir et le battement cardiaque a augmenté. Bon, je suis allé m'endormir. Le lendemain, je me suis réveillé en forme. Et jusqu'aujourd'hui, ce que je constate, il suffit que je prenne un peu du poids, je sens que le cœur bouge à part le battement normal du cœur. Bon, il faut s'ajouter que j'ai une mère qui est d'abord cardiaque et un père qui est hypertendu.
Oui.
Bon, c'est ce que je veux savoir, si le professeur peut me donner son opinion par rapport à moi maintenant.
Voilà, merci beaucoup Claude pour la question. Professeur Jean-René Mbuyamba, docteur Jean-René Mbuyamba, professeur à la faculté de médecine interniste et cardiologue. En quelques mots, quel conseil vous pouvez prodiguer à cet auditeur Claude qui nous a appelé de Kinshasa?
Je n'ai pas bien entendu quel âge il a.
Il dit qu'il a 24 ans.
Bien. Il faut dire que ces effets pratiquement immédiats après consommation
du beurre.
De beurre et de... Je ne vois pas d'emblée une explication plausible qu'on peut leur donner.
Oui.
S'il s'agit d'un cœur tout à fait normal. Mais comme il dit qu'il y a chez lui une hérédité, du côté maternel, problème cardiaque, du côté partenaire, aussi problème cardiaque, il faut savoir que ces problèmes, notamment l'hypertension, il y a quand même une prédisposition familiale qui existe. Et je pense que ce qu'il faudrait peut-être considérer comme les cœurs bougent, si effectivement il s'agit de cœurs, ce sont des palpitations qui peuvent être des battements prématurés, des battements précoces du cœur que nous appelons des extrasystoles. Je conseille notre ami d'aller faire un électrocardiogramme, qu'on voit un peu s'il s'agit effectivement des extrasystoles et combien il y en a, parce que s'il y a une extrasystole qui vient après une heure, ou bien on ne s'inquiète pas trop, mais qu'on voit combien il y en a pour voir si elles peuvent traduire quelques altérations de la fonction cardiaque qui ne soient pas déjà manifestes sous forme de maladie. Et ici, il faut aussi demander qu'ils puissent aller faire examiner le sang pour qu'on voit effectivement s'il n'y a pas un excès des troubles des lipides déjà préexistants chez lui.
Voilà, merci docteur. Alors, Mamie Bayouma, nutritionniste, vous avez un autre élément d'information?
Oui, moi je voulais dire à cette personne, mais bon, non seulement à lui, mais à d'autres personnes.
Oui.
Bon, il est aussi mieux de faire aussi, de consulter aussi les diététiciens.
Mm-hmm.
Parce que des fois, bon, il ne suffit pas seulement de voir sur la liste qu'on a donnée, si moi je ne mange pas cet aliment, parce qu'il y a d'autres gens, vous pouvez donner cette liste, mais parmi ces aliments, ils ne mangent pas, mais il a d'autres erreurs alimentaires.
Mm-hmm.
Mais aussi, donc, quand vous les consultez, il peut aussi vous dire déjà, quand vous consommez, quand ils peuvent prévoir votre aliment, vous donner une bonne alimentation pour prévoir d'autres maladies à la longue.
Mm-hmm.
Parce que, il y a des, bon, pour cette personne-là, il peut vous citer seulement des aliments que lui connaît, qu'il dit, par exemple, quand je mange ça, ça me donne des troubles dans mon cœur. Mais il y a aussi d'autres aliments qu'il ignore. Ça peut aussi participer à ça. Donc,
oui.
C'est mieux de connaître vraiment les habitudes des personnes. Parce que les gens oublient souvent la partie diététique dans leur maladie. Et pourtant, une prise en charge diététique est vraiment... était très important pour ces, non seulement ces maladies, mais plusieurs maladies, mais d'autres maladies.
Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire alors? Qu'il passe.
Oui, ils doivent voir les diététiciens.
Oui.
Pour parler, connaître leurs habitudes alimentaires et les orienter sur ce qu'ils doivent faire vraiment, donc pour améliorer quelque chose.
Alors, Mamie Bayouma, parlons par exemple des cas des hypertendus, et des personnes qui souffrent de l'hypertension ou hypotension. Mmh. Quel type de régime alimentaire pour préconiser pour ces personnes-là?
Chaque fois, je suis en train de dire, c'est pourquoi moi, au début, je n'ai pas pu citer les aliments comme ça.
Oui.
En principe, même l'hypertension, c'est à plusieurs cause. Mais pour chaque cas, si vous connaissez les cas, bon, la spécificité, vous connaissez mon telle personne, il a l'hypertension, vous les suivez, vous connaissez ses habitudes alimentaires d'abord. Parce que je viens de vous dire, donc chaque personne selon sa qui, il y a des choses que toi tu manges, moi je ne peux pas manger, je n'ai jamais mangé peut-être. Mais si je te défends cet aliment, toi tu n'as jamais mangé, ça ne sert à rien.
On entend dire, il y a certains qui disent qu'il faut prendre du café, tout ça pour...
Mais par exemple, moi je te défends du café, mais toi tu n'as jamais pris du café,
du
ça ne sert à
certains,
rien.
Certains, il ne faut pas prendre
bon,
du sel,
bon, oui,
voilà,
on dit qu'il faut... Il y a, ce que j'ai dit, il y a une prise en charge globale et spécifique.
Oui.
Par exemple, je voulais dire ici, en cas de suffisance rénale, hein, pour quelqu'un qui a de gonflement, par exemple, au niveau de pieds. Bon, quand tu as des gonflements pareils, le persil, quand on donne par exemple le persil, ça soulage, ça diminue, c'est quoi? C'est gonflement.
Oui.
Mais pour une femme enceinte, quand tu lui donnes le même persil, ça augmente les contractions. Il peut même faire des avortements. Donc vous voyez que citer les aliments comme ça, ce n'est pas bien. Donc
voilà.
Dans la globalité, je peux dire mais. Il faut vraiment que ça soit spécifique.
Il faut que ça soit spécifique. Ouais. Nous avons en ligne Claude Prince Kalala depuis Kananga. Bonjour Prince.
Bonjour.
Oui, quel est votre problème Prince Kalala?
C'est depuis Mbujimayi.
Ah, depuis Mbujimayi. Voilà, allez-y.
Ouais. J'ai deux petites préoccupations. La première préoccupation, je voudrais demander au docteur s'il peut nous donner un peu les signes communs des maladies cardiaques. Et la deuxième question est celle de savoir, il y avait un cas d'une personne qui fait les exercices physiques normalement, qui ne boit jamais de l'alcool, qui ne fume pas, mais chez qui on a posé le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il en est même mort, mais la famille pense à la sorcellerie. Un cas comme ça, comment est-ce que le professeur peut l'expliquer? Merci.
Merci beaucoup, Prince. Nous prenons également Mutoshi depuis Colésie. Bonjour, Mutoshi.
Bonjour.
Oui, vous avez la parole.
Oui, je me rappelle que j'appelle depuis le Katanga, comme je dis.
Oui.
J'avais juste une préoccupation. Moi, ce qui m'a toujours arrivé, quand j'arrive à consommer des aliments sucrés, quelle que soit la quantité, je sens vraiment un battement du cœur très très rapide et parfois même une fatigue exagérée. Donc, c'est ce que je voulais toujours demander au docteur.
Oui.
Et ceci, j'ai constaté ça il y a au moins 5 à 6 mois maintenant.
Oui.
Même le thé, je ne prends pas, et même juste un petit, une petite sucette, même le bazooka qu'on appelle le cigogne, je n'arrive pas à prendre. Et je sens toujours ces battements du cœur rapides.
Oui.
Maintenant, je voulais toujours demander au docteur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est dû à quoi, ou c'est dû à...
Voilà, docteur Jean René, vous avez suivi les deux préoccupations de Prince Kalala et de Mutoshi à Kolezi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, à Prince Kalala qui demande quels peuvent être les signes caractéristiques de la maladie cardiovasculaire.
Oui.
Bon, tout de suite, je voudrais lui dire, quand nous parlons de la maladie cardiovasculaire, nous voyons le terminus de plusieurs affections qui atteignent le cœur et les vaisseaux, et le terminus, c'est l'insuffisance cardiaque. Et alors, l'insuffisance cardiaque, le signe cardinal, c'est l'essoufflement. Le malade est essoufflé. Il a la dyspnée, une difficulté de respirer parce que le cœur n'apporte plus suffisamment du sang pour perfuser la plupart des tissus,
oui.
Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour aider le métabolisme des tissus, et alors il est essoufflé. Donc cet essoufflement qui commence par être un essoufflement à l'effort, au moment où l'insuffisance n'est pas encore très forte, le malade est essoufflé quand il fait des efforts intenses, puis des efforts modérés, puis des efforts simples, puis il est essoufflé même assis. Donc c'est le signe, le premier signe, le signe le plus remarquable. Il y a d'autres signes qui dépendent toujours d'une mauvaise perfusion des tissus.
Oui.
Donc ils sont nombreux, ils montrent que le cœur n'apporte pas suffisamment de sang, d'oxygène, de nutriments à divers organes. Tous ces organes-là se fatiguent dans leur fonctionnement.
Alors, le deuxième volet de sa question, il a parlé d'une connaissance qui est morte...
Le deuxième volet de sa question, quelqu'un qui ne semblait pas avoir exposé à toutes sortes de facteurs de risque, mais qui a quand même, et qui meurt par une insuffisance cardiaque, eh bien, les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque sont même l'infection. Je vous ai dit que certaines maladies infectieuses peuvent retentir sur le cœur. la trypanosomiase peut ressentir sur le cœur, les virus peuvent ressentir sur le cœur, créer une myocardie, créer une insuffisance cardiaque, et le malade meurt, même s'il ne buvait pas, même s'il ne consommait pas d'alcool. Donc il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est donc un terminus de plusieurs maladies qui peuvent atteindre le cœur. Malheureusement, quand on arrive au stade de l'insuffisance cardiaque, parfois, on n'arrive plus à remonter pour savoir quelle a été la cause initiatrice de la maladie. Et dans le milieu, l'ignorance conduit souvent à accuser des forces mystiques, mystérieuses, la sorcellerie.
Alors,
une chose sur laquelle beaucoup, la société devait se pencher et éliminer ce genre de croyances fallacieuses par une éducation, une information des personnes quant à leur état de santé et aux probabilités de maladie.
Voilà, docteur, rapidement, vous allez répondre à la question de Mutoshi qui dit chaque fois qu'il prend des aliments sucrés, il a des battements de cœur, il sent une fatigue exagérée, même quand il prend du chewing-gum, il est très très fatigué. Qu'est-ce que vous lui direz en quelques mots?
C'est assez bizarre parce que aux personnes généralement fatiguées, nous préconisons de pouvoir prendre quelques éléments qui apportent du sucre et qui améliorent la production de l'énergie. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il a un problème au niveau de son estomac. Je crois qu'il existe certaines situations ou une consommation trop rapide des aliments sucrés dans le cadre de ce qu'on a appelé un syndrome de dumping peut amener une telle fatigue, une telle métabolisation trop rapide de ces sucres, parce que ce sont des sucres à élimination, à absorption rapide, et ceci peut s'accompagner de l'utilisation de cette énergie qui apparaît très vite, qui donne les palpitations et qui est épuisée.
Alors, que doit-il faire?
Alors, comme l'a dit la diététicienne, nous préconisons généralement, pour ce genre de situation, pour des malades et pour même les personnes bien portantes, de réduire la consommation de sucre raffiné et d'utiliser souvent les sucres à production, à libération progressive dans les structures comme l'amidon qui donne des sucres à digestion lente couplés à des fibres alimentaires qui est généralement assez protectrice pour les perturbations de la régulation de glucides dans les corps.
Voilà, nous allons
aussi contre le développement des maladies métaboliques comme le diabète.
Voilà, prenons encore rapidement les deux questions des auditeurs. Il y a Paul Alboumbashi et Jean René depuis Matadi. Nous commençons par Paul. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Paul. Allez-y.
Ma préoccupation remonte à mon adolescence.
Oui.
J'avais souvent des très fortes palpitations qui étaient souvent accompagnées de douleurs au niveau du cœur.
Oui.
Et le médecin m'avait consulté, m'avait dit que ce n'était pas très grave, et même m'avait même recommandé de prendre la méprobamate pour me calmer, avec interdiction de faire la gymnastique et beaucoup de choses fatigantes. J'ai évolué jusqu'à ce que maintenant j'ai 34 ans, mais je remarque toujours qu'il y a de fortes palpitations et des douleurs parfois au niveau de la poitrine gauche, c'est comme des contractions. Je suis allé voir le docteur, on m'a fait l'échographie, n'a rien trouvé. Je suis rentré à la maison, ça a recommencé encore il y a 2 mois, j'étais encore à l'hôpital, on m'a même fait la radio de la poitrine. Ça n'a pas marché, mais entre-temps, ces complications sont toujours là, la douleur et les fortes palpitations. Et je ne sais pas si le docteur Jean-René peut voir quelque chose d'autre.
D'accord, merci pour avoir posé cette question. Nous prenons également Jean-René depuis Matadi. Bonjour Jean-René.
Bonjour.
Oui, vous avez la parole.
Oui, je voulais poser des questions très pertinentes. La première est celle-ci. Quel inconvénient y a-t-il à une personne qui souffre de l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui consomme souvent le sel diététique? Ça, c'est la première question. Et puis, je voulais encore demander une autre question. Ma question est celle-ci.
Mais est-ce que vous-même, d'abord Jean-René, est-ce que vous-même, vous avez un problème de santé lié à... Vous avez un problème cardiaque?
Oui, c'est bien moi, c'est pourquoi je pose toutes ces questions. C'est bien moi, je parle de ma personne.
Oui, oui, alors vous allez décrire d'abord ce que vous ressentez, ce que vous avez comme problème et elle va répondre.
Ah, ça va, mais c'est ça parce que j'ai un problème d'hypertrophie. J'ai dit bien l'hypertrophie ventriculaire gauche. Le professeur connaît, il s'agit de quoi? Alors, j'étais.
Oui, mais il faut bien expliquer en des termes beaucoup plus clairs pour permettre aux autres auditeurs de comprendre.
Ah, ça va. Bon, il m'est arrivé, j'avais des palpitations. Quand je travaille souvent, j'avais chef à l'hypertension. Et puis, j'avais un peu de vertige. J'ai consulté Dr Manzal, toujours au clinique universitaire. Ça fait un peu deux ans passés. Trois ans, pardon. Je lui ai consulté. Quand je lui ai consulté, celui-ci me dira qu'après les coquères, j'avais une hypertrophie ventriculaire gauche. Mm-hmm. Alors, j'étais soigné par Renitech, Notropil et puis Sympathil. Effectivement, Dr Manzal avait fait bien son travail, il y avait vraiment gain de cause, je me sentais mieux. Mais après deux ans, j'ai senti encore de l'hypertension. J'ai vu cette fois-ci le docteur Kintoki, le professeur Kintoki, celui qui m'a prescrit Amylor 5 mg.
Alors, Alors maintenant, quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Souvent, j'ai de l'hypertension. Effectivement, souvent, quand je prélève l'attention intérieure, j'ai l'hypertension. Alors, je voulais savoir ce lié à quoi, parce que, constamment, je ne suis plus malade. J'ai plus un problème de l'hypertrophie ventriculaire, parce qu'il avait vu dans l'échographie, il n'avait plus rien. Mais j'ai toujours l'hypertension, c'est ça ma question.
Voilà, merci.
J'ai l'hypertension.
Oui.
Et la deuxième question, s'il y a des inconvénients pour consommer des sels diététiques à longue, beaucoup souvent.
Mais c'est quoi le sel diététique?
Le sel diététique, c'est le sel que les gens qui souffrent de cardiaque consomment, les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle.
Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Jean-René depuis Matadi. Docteur Jean-René Mbuyamba, en quelques mots, si vous pouvez rapidement répondre à ces deux préoccupations. Premièrement, celle de Paul depuis Lubumbashi et de Jean-René depuis Matadi.
Je salue mon anonyme Jean-René de Matadi et je voudrais tout de suite répondre que l'hypertrophie est un moyen que le cœur qui connaît beaucoup de choses, qui voudrait survivre et continuer à bien travailler, utilise pour essayer de lutter contre l'hypertension, contre la tension trop élevée. Alors le cœur s'épaissit pour devenir très fort et pomper le sang. Et en général, lorsque le cœur devient ainsi très épais, il souffre lui-même de cela. C'est pourquoi nous, les médecins, nous donnons quelques médicaments qui peuvent réduire cette hypertrophie, notamment, comme vous l'avez dit, les médicaments qu'on vous avait prescrits, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, servent souvent à réduire l'hypertrophie qui peut régresser. L'hypertrophie a un effet mauvais sur le pronostic.
Oui, il a peur, ouais, docteur.
Alors,
oui.
Mais cela ne veut pas dire que l'hypertension a disparu. L'hypertension est toujours là, elle est contrôlée. Et si vous consommez du sel normal en quantité excessive, eh bien vous perturber encore l'hémodynamique de votre corps et vous augmenter le risque.
Donc, ils ont pu consommer du sel.
Des régimes. Les sels des régimes, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en procure, mais généralement, j'ai des conseils. Quand je dis le sel, je préfère qu'on laisse le sel parce que ce sel de prétendu des régimes, parfois, ce sont des sels qui sont trafiqués et qui contiennent encore du chlorure de sodium qui n'est pas un bon sel pour les malades hypertendus.
Alors, docteur, en quelques...
Par exemple, chez nous, traditionnellement, un sel riche en potassium.
Alors, docteur...
Une fabrication traditionnelle. Mais aujourd'hui, ceux qui extraient ce sel trichent en y mettant de temps en temps des chlorures de sodium, ce qui n'est pas bon.
Voilà, docteur Jean-René, rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps. On va bientôt clôturer cette émission. Si vous pouvez répondre à Paul...
Oui.
Paul depuis Lubumbashi.
La question de l'auditeur de Comédie.
Mais de Lubumbashi, c'est Paul qui a dit qu'il a des palpitations, des douleurs au cœur, des contractions, des fortes douleurs, et ça avait commencé depuis son enfance. Que doit-il faire à présent?
Bon, en général, ce qu'il y a, c'est que si on a toujours des douleurs dans la région du cœur, qu'on fait certains examens, parce que tous les examens qu'on fait ne permettent pas toujours de voir. Quand on a les douleurs dans le cœur, souvent, cela signifie que le cœur n'est pas bien irrigué. Alors, il est important de pouvoir faire d'autres examens qui montrent si les vaisseaux qui apportent le sang au cœur sont tout à fait perméables et le cœur reçoit suffisamment du sang pour ses besoins. Et alors, quand ce cœur, souvent douloureux à l'effort, signifie probablement que l'individu ne reçoit pas suffisamment de sang pour faire cet effort.
Voilà, donc...
nous appelons une angine de poitrine.
Donc, monsieur...
une angine de poitrine, c'est une situation assez malheureuse qui peut être guérie aujourd'hui, mais qui nécessite qu'on regarde les vaisseaux coronaires, qu'on les examine, qu'on voit s'ils sont ouverts et laisse passer suffisamment du sang.
Voilà, Mamie Bayouma, vous avez...
Bon, moi je pourrais dire pour la personne qui a dit qu'il a la tension artérielle.
Oui.
Bon, rien qu'avec les seuls... même si c'était les sels potassiques, on ne peut pas avoir un bon résultat. Seulement avec ça, pour avoir un bon résultat, avec l'hypertension, c'est vraiment... c'est illusoire.
Oui.
Mais il faut toujours voir un diététicien. Parce que moi, j'ai toujours vu beaucoup de gens retournent avec leur maladie, retomber encore, mais ils ont les régimes. Les régimes, là, ce n'est pas bien élaboré par un diététicien. Parce que beaucoup de gens ne font qu'en... Bon, d'autres personnes font le travail des diététiciens, mais ils ne font pas à fond. Parce que ce n'est pas seulement... Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas seulement... Moi, je peux vous citer des aliments. On donne à une personne, mais si vous n'entrez pas à profondeur, moi, je peux prendre les mêmes aliments que vous me dites. Si je sais que si je manipule ça comme ça, j'aurai tel résultat. Si je manipule d'autres manières, j'aurai tel résultat.
Alors,
donc,
où trouver les bons diététiciens?
Bon, il faut chercher un diététicien. Il y a des diététiciens dans la ville. Ou chercher vraiment un diététicien. Moi, je me dis, quand tu vois par exemple, un cardiologue, il te traite, cherche un diététicien pour les régimes. Il ne faut pas seulement se contenter, parce que moi j'ai vu plusieurs cas, les gens retombent toujours à cause de ces problèmes-là. Il ne suffit pas seulement de citer, mais il faut donner un régime vraiment compatible avec la maladie. Parce qu'on dit les choix, tout ce qu'on fait. Il y a même des aliments qu'on évite, même avant même que tu ne tombes malade.
Oui.
Ne mange pas ça, parce que, par exemple, ne mange pas les charcuteries. Ce n'est pas recommandé à manger beaucoup de charcuterie parce que ça contient beaucoup de graisses polysaturées qui sont mauvaises pour notre santé. Bon, il y a des crèmes, des gâteaux, ces histoires-là, des sucreries. On déconseille ça parce que c'est mauvais pour la santé. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on est malade. Mm-hmm. Il faut prévoir. À part ça, il y a aussi d'autres méthodes de cuisine que nous utilisons. Mais quand on cause avec la personne, on peut déceler ses erreurs et élaborer un régime adéquat par rapport à son état physiologique. Parce que chaque personne doit avoir son régime. Le régime est approprié. Je ne peux pas prendre tel régime pour donner à une autre personne.
À une autre personne,
non.
Oui. Voilà, donc les conseils que Mamie Bayouma, nutritionniste, vous donne, allez chercher un diététicien et qui pourra vous indiquer quel régime adopter pour votre cas. Nous prenons les dernières réactions. Nous avons Boileau depuis Mikalaï, au Kasaï occidental. Monsieur Boileau, bonjour. Il n'est plus en ligne. Une autre question, elle vient de M. Moufano de Massissi, au Nord Kivu, âgé de 57 ans et pesant 63 kilos. Je suis hypotendu. Il m'arrive souvent l'hypothermie. Je prends du café fort. Que me conseillez-vous? Mamie, vous avez suivi. Il prend souvent du café fort. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Oui, parce qu'il a l'hypotension.
Oui.
Bon, c'est vraiment... Bon, il doit... manger convenablement, respecter l'équilibre alimentaire, manger quoi, le poisson même des mers s'il y en a, mais même il y a les poissons des lacs aussi, ça contient aussi les sodiums, c'est bon aussi pour l'hypotension.
Voilà.
Mais les cafés...
Mamie Bayouma, on va marquer une pause, le temps de suivre les informations. Docteur Jean-René, restez en ligne.
Si il n'y en a pas, une certaine de ces maladies sont endocriniennes et peuvent être suffisamment prises en charge. J'étais heureux de voir la diététicienne l'a épinglé. Une telle personne, je crois que ce que nous pouvons faire, c'est lui demander de pouvoir augmenter un petit peu la consommation de produits salés.
car chez lui, cela peut permettre d'élever la pression artérielle. Mais
il affirme qu'il prend souvent, il prend souvent du café fort. Hein.
Il faut rechercher et voir dans quel cadre de pathologie cela s'inscrit et soigner la cause parce que l'hypotension est souvent secondaire.
Voilà, mamie, vous avez peut-être un complément par rapport à ce que le docteur a dit.
Oui, j'ai attendu ce qu'il a dit. Franchement, beaucoup de maladies, même hypertension, hypotension, ça cache aussi d'autres maladies. Il faut toujours rechercher ces maladies pour pouvoir donner une diète correspondante.
Mais il dit qu'il prend souvent du café fort. C'est bon ou c'est pas bon?
Bon, les cafés, je ne pense pas que c'est ça qui stimule ou ça augmente la tension, je crois pas.
Voilà, nous disons merci à Dr Jean-René Mbuyamba, professeur à la faculté de médecine et interniste cardiologue, je crois professeur à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
Oui, voilà. À la faculté de médecine de l'université de Kinshasa,
voilà.
Que je preste de manière régulière.
Voilà, et nous disons merci à Mami Bayouma, nutritionniste au programme national de nutrition, Pronanit en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et peut-être on va se retrouver prochainement pour une autre émission. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Merci et au revoir.
Merci.
Au revoir.